Bonjour tout le monde, vous êtes ici pour la conférence Écrire et publier, conseil à un jeune auteur. Donc, avec moi aujourd'hui, Stéphane Marsan, directeur des éditions Bragelonne. Je voulais juste faire un petit point sur les éditions Bragelonne avant qu'on commence. C'était la conférence d'avant. Donc, une maison d'édition fondée le 1er avril 2000, ce n'est pas une blague, et c'était il y a 15 ans déjà, par une bande de copains, donc bien sûr Stéphane Marsan, Alain Évan, Henri Lovenbruck, Emmanuel Baldenberger et Barbara Liano, qui est devenu en 15 ans le premier éditeur des littératures de l'imaginaire et qui est une maison d'édition qui est encore indépendante des grands groupes. Alors, Bragelonne, c'est quoi ? Je pense que ce n'est pas inutile qu'on fasse un petit récapitulatif des différents genres qui sont publiés dans les maisons d'édition, même si Stéphane va nous parler de conseils généraux pour se faire publier, et pas seulement pour se faire publier chez Bragelonne. Mais je pense que ce n'est quand même pas inutile de rappeler un peu la galaxie Bragelonne, c'est quoi ? Et quels sont les différents genres qui sont publiés chez Bragelonne ? Donc, la maison mère Bragelonne, c'est de la fantasy, au départ, de la SF, du fantastique, avec la collection L'Ombre. On parlera un petit peu de chiffres après pour que je vous explique aussi Bragelonne, c'est quoi en termes de parution. Donc après Bragelonne, le label Milady a été créé en 2008, publie du poche et du grand format, de la bitlit, de la romance, des livres dérivés des jeux vidéo et des séries comme Buffy par exemple. Le label Castelmore, créé en 2010, qui publie des livres pour les jeunes et pour les ados, dont les thèmes sont la fantasy, la science-fiction, le roman historique et l'humour. Snark, une collection de primo numérique, qui nous en parlera sans doute aussi, lancée en janvier 2014, qui publie donc primo numérique, c'est quoi ? C'est-à-dire que le livre est publié de façon numérique, mais peut être édité à la demande. Et il y a aussi Emma, qui est la collection primo numérique de Milady, qui fonctionne donc sur le même principe. Donc, au total, si on regroupe en 2015 toutes ces collections, ça fait quand même 44 livres par mois environ, ce qui est plus qu'en un an pour bien des maisons d'édition. Et ça, c'est par mois, voilà, en moyenne. Donc, voilà, la question qui vous intéresse, j'imagine, c'est quelle place pour les auteurs français chez Bragelonne et quelle place pour les jeunes auteurs français qui n'ont pas encore publié ailleurs.
Bonjour. Quelle place ? Une place importante et en même temps une place mesurée, je dirais. J'ai commencé ma carrière, j'ai eu la chance de commencer ma carrière en 1995, au début quand j'ai créé une autre maison d'édition qui existe toujours, qui s'appelle Mnemos, et où j'ai commencé par ne publier que des auteurs français. Cette place, pourquoi je dis une grande place et en même temps mesurée, c'est que travailler avec des auteurs français, c'est un processus vraiment sur le long terme, c'est-à-dire que au lieu d'accueillir un bouquin qui est déjà fini, écrit, de le traduire et de le publier, on participe à sa composition, à son élaboration, etc. Et ça peut être un processus relativement rapide, ça peut être un processus extrêmement long. Dans la composition, l'écriture de l'auteur et dans le dialogue avec l'éditeur qui va demander des modifications, donner une direction un peu différente, aller chercher une autre orientation pour cet ouvrage pour arriver à une forme définitive qui, on l'espère, corresponde le mieux possible à ce que l'auteur voulait faire au départ et correspond le mieux possible à ce que l'éditeur pourra en faire après en termes d'image, de commercialisation, de vente, etc. Mais une grande place quand même. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même une grande vitalité, en particulier puisque c'est un festival dédié à l'imaginaire, en particulier dans les littératures de l'imaginaire en France, si on compare avec d'autres pays européens qui se sont soit réveillés assez récemment dans ce domaine, comme l'Allemagne par exemple, soit ne se sont pas toujours réveillés. Enfin, vous allez en Italie. Il y a deux, trois noms depuis 20 ans. Il y a vraiment très, très peu d'auteurs de littérature de l'imaginaire en Italie. J'ai cité 95 avec des gens comme Mathieu Gabory, Fabrice Collin, Laurent Klotzer, Eric Wietzel, Pierre Grimbert, qui sont les premiers auteurs que j'ai découverts et que j'ai publiés. Et ensuite, Bragelonne et ensuite d'autres maisons d'édition qui ont, La Talente évidemment à l'époque aussi, qui ont eu à cœur de développer un catalogue d'auteurs français. Francophones. Oh là là, francophones. Marika Gellman va encore m'allumer, puisque à notre catalogue, il y a des Suisses, il y a des Québécois, voilà, il y a des gens qui écrivent en français et qui ne sont pas français. Mais je dis mesurer aussi parce que, avant tout, ce qu'on doit chercher à faire quand on est éditeur, c'est publier des bons livres. C'est bête à dire, mais enfin, voilà, autant le dire quand même clairement. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas publier pour publier, il ne faut pas charger un programme de publication, charger des étagères et des tables en librairie par principe, même s'il y a aussi des nécessités de visibilité, de présence en librairie sur le marché. Enfin, typiquement le phénomène de la rentrée littéraire, tous les grandes maisons littéraires françaises à la rentrée littéraire en septembre publient énormément de titres et on savent tous, et nous savons tous, que une toute petite fraction de ces ouvrages sera véritablement repérée et appropriée par le public, mais eux le savent très bien. Alors vous pourriez dire, mais pourquoi ils font tous les autres? Eh bien, ils font tous les autres parce qu'ils ont besoin de montrer qu'ils en ont plus de un ou deux des bouquins là pour la rentrée littéraire. Ils en ont 10, ils en ont 15, ils en ont 20. Donc il y a un phénomène d'optique générale qui fait que, ou par exemple, quand on lance une collection, on ne lance pas une collection avec un titre, on lance une collection avec 2, 3, 4, 5 titres, histoire de montrer. On en a plein et on va en avoir d'autres. Voilà, il faut avoir un premier effet important. Donc, je dis mesurer parce que, en gros, il ne faudrait pas non plus, et j'ai un peu l'impression qu'on arrive à cette situation-là aujourd'hui sur le marché, quand vous voyez tout ce qui est proposé, que tout ne vaut pas vraiment le coup d'être publié. Alors on pourrait me dire que sur les 1700 titres au catalogue de Brajeune et Mélidy, tout ne valait pas le coup d'être publié. C'est évidemment, enfin, c'est subjectif aussi ça. Mais il y a des bouquins qui ne sont pas finis, il y a des bouquins qui ne sont pas parfaits, il y a des bouquins qui sortent trop tôt. On se dit, ah, celui-là il méritait d'être bossé un peu plus, ou celui-là il méritait peut-être de rester dans le tiroir et que ce soit le prochain roman de cet auteur qui soit publié. Voilà. Mais il y a aujourd'hui, pas loin d'une trentaine d'auteurs francophones au catalogue de Brajlon, Milady et Castelmore. C'est pas mal. Ça fait 10%, je crois, à vue de nez, en fait.
D'accord. Alors, si quelqu'un, par exemple, se trouve dans la salle et se demande est-ce qu'il y a un genre dans lequel il aura plus de chances de se faire publier, quels conseils pouvez-vous lui donner? Est-ce que vous avez aussi des conseils de lecture, justement, à donner à cet auteur débutant?
Alors, le genre, alors d'abord écrivez dans le genre que vous voulez. Ne vous dites pas, je déteste le thriller, mais il faut que je fasse du thriller parce que, voilà, parce que vous aurez toutes les peines du monde à y arriver. Écrivez ce que vous sentez, écrivez ce que vous aimez, écrivez ce pourquoi vous pensez que, voilà, ce dans quoi vous avez quelque chose à apporter. En même temps, regardez ce qui se passe sur le marché, regardez les tendances, regardez les meilleures ventes. Histoire d'éviter de tomber dans une impasse et de proposer, de vous évertuer à proposer à des éditeurs exactement ce que les éditeurs n'ont pas envie de publier à ce moment-là. Mais en même temps, ne jurons pas, et quand je dis jurons, j'inclus aussi les éditeurs, ne jurons pas tous seulement par les modes, par les mouvements, par les vagues, parce qu'elles sont par définition temporaires et éphémères. Et si vous vous dites, ah, nom d'un chien, j'en sais rien, la bitlite ou les vampires, ça cartonne, il faut absolument que je le fasse, le temps que vous finissiez votre roman et que vous le proposiez à un éditeur, etc., si ça se trouve, ça sera un an et demi, deux ans, et ça sera terminé. Donc vous arriverez, vous aurez beaucoup travaillé dans un genre, et vous arriverez au moment où l'éditeur vous dira, ah non, désolé, c'est fini les vampires. Bon. En même temps, c'est fini les vampires, c'est jamais tout à fait fini, et je pense que c'est l'une des beautés des littératures de l'imaginaire, c'est qu'elles sont quand même très universelles et elles tendent à l'éternité, c'est-à-dire qu'un grand livre de science-fiction, un grand livre de fantasy, un grand livre fantastique, il y aura toujours quelqu'un pour le lire, il y aura toujours un éditeur pour le publier. En revanche, combien y en aura-t-il et quelle sera la probabilité d'être publié? Là, ça dépend aussi des catalogues d'éditeurs. Donc je vous incite à regarder ce que font chacun de ces éditeurs, à la fois pour repérer quelles sont les grandes tendances, quels sont les genres qui sont les mieux représentés chez tel ou tel éditeur, quels sont également les genres pour lesquels l'éditeur est le plus identifié. C'est pas exactement la même chose. Par exemple, aujourd'hui... si on regarde le catalogue Milady, on publie énormément de romances. Et pourtant, Milady n'est pas immédiatement identifié comme un éditeur de romances. Bon. L'inverse est vrai aussi. Au début de Brajlon, enfin dès le début de Brajlon, on a fait quand même pas mal de science-fiction. On a toujours été identifié comme un éditeur de fantasy. Bon. Donc, il faut repérer ça. Pourquoi ? Parce que c'est le terrain sur lequel vous allez jouer quand le moment viendra où vous proposerez, où vous essaierez de Voilà, vous proposerez votre ouvrage à un éditeur, il ne faut pas être à côté de la plaque. Il faut essayer de jouer la meilleure carte. Et enfin, évidemment, ça, vous pouvez en parler avec les autres auteurs qui vous diront ah ben, moi, je suis chez machin, je fais ça et c'est plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, ou là, c'est plus compliqué, c'est pas leur truc. Voilà, si vous voulez, par exemple, quand je parle avec des confrères, je comprends très bien qu'un auteur francophone de science-fiction propose plutôt son roman à la Talente qu'à Bragelonne. Parce que Bragelonne est beaucoup plus connu. Enfin, voilà, nos forces, elles sont plutôt du côté de la fantasy. Et l'inverse est vrai. Et en même temps, il y a un magnifique titre de fantasy à la Talente. Il y a un très bon titre de fantasy de SF chez Bragelonne. Bon. Donc voilà, il y a un repérage de marché qui est important à faire. Il y a le petit fascicule fait par Cocyclix, là, le petit dictionnaire des éditeurs d'imaginaire, je sais pas comment ça s'appelle, qui répertorie, qui a bien pratique parce que ça répertorie un peu, enfin, ça cartographie ces tendances des différents éditeurs.
Et alors sur les conseils de lecture peut-être pour les scénarios ou...
Alors ça, oui, enfin...
Ou les classiques.
Oui, Stephen King le dit tout le temps, il a bien raison, il dit apprendre à écrire, c'est lire. Hein. C'est lire et écrire, c'est bête à dire, mais voilà, c'est vraiment... Lisez tout le temps, nourrissez-vous de ce que font les auteurs que vous aimez, essayez de comprendre pourquoi ces bouquins que vous aimez marchent si bien, pourquoi ils vous ont tellement plu, pourquoi vous voulez les relire. Enfin, il y a un travail d'analyse, de dissection hein, des œuvres, de vos œuvres favorites. Et puis, je pense... Alors, par rapport au genre... Moi, je suis un peu là-dessus, je suis un peu iconoclaste, c'est-à-dire que si vous voulez apprendre à faire un bon roman de fantasy, bon, évidemment, vous allez lire la fantasy. D'ailleurs, vous en lisez déjà, sinon, vous ne viendrez pas à l'esprit d'écrire un roman de fantasy. Mais je crois qu'il est plus important d'aller à l'essentiel de ce qui est derrière les gens, enfin, à l'intérieur des genres littéraires. Et l'essentiel, c'est le romanesque, c'est ce qui est dramatique. C'est-à-dire que le drame, que ce soit du roman ou du théâtre ou des films, etc., vraiment ce qui est au cœur de quelle histoire on raconte, quelle histoire on veut raconter et quelle histoire va accaparer un lecteur et ne pas le lâcher du début à la fin. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Premièrement, parce que les genres de l'imaginaire sont des genres à décorum, sont des genres, je le dis aussi, aussi souvent que je peux, quand... Quelqu'un me dit, on peut vous parler du livre que je suis en train d'écrire. Je dis, d'accord, c'est quoi l'histoire ? Et quasi invariablement, on me répond, alors c'est un univers où ? Non, je vous ai posé la question de l'histoire, pas de l'univers. L'histoire, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, quelqu'un qui a un problème et qui, du coup, est obligé de faire quelque chose. L'univers, c'est tout, c'est le contexte dans lequel ça se passe. Bon. Si je vous demande ce qui se passe dans, un roman de Marc Lévy, vous n'allez pas me dire, c'est un univers où ? Vous allez me dire, c'est l'histoire d'un type qui rencontre une femme qui tombe amoureux. Bon. Donc l'histoire, c'est ça qui est important. Et que ce soit en fantasy, que ce soit au Moyen-Âge, que ce soit dans l'espace, que ce soit dans l'Angleterre victorienne, etc., l'important, c'est l'histoire. Et quand même, et vous avez un exemple très fort dernièrement, évidemment, et très, très grand public, qui est le Trône de Fer. Le Trône de Fer, vous enlevez les dragons, ça reste intact. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'autant de gens aiment le Trône de Fer ? C'est la puissance de l'histoire, c'est la qualité des personnages, c'est les trahisons, les vengeances, la fourberie, l'espoir, le besoin de liberté, la méchanceté. Voilà, c'est ça qui fait qu'on lit le Trône de Fer et qu'on l'adore. Et George Martin lui-même a dit bien des fois tout ce qu'il devait au Roi maudit de Maurice Druon ou aux pièces de Shakespeare, enfin la Guerre des Roses. Et donc, mon conseil à moi, c'est d'aller lire des classiques du romanesque. C'est de lire de la mythologie, d'aller chercher les archétypes fondamentaux des histoires qu'on aime et qui nous font vibrer et qui nous touchent depuis la nuit des temps. Et en ce qui concerne le romanesque moderne, moi, il y a trois bouquins qui me paraissent absolument essentiels. Alors, voilà, c'est des choix subjectifs, mais je suis pas le seul à les trouver... absolument fondamentaux. Le premier, c'est Les Misérables. Parce que tout est dans le titre. Vous ne pouvez pas vous rater. D'ailleurs, Les Misérables, voilà. Les gens qui souffrent. On sera toujours touché par les gens qui souffrent. Et puis, l'élan de l'histoire, l'intervention dans le cours de l'histoire, la politique, etc. Le deuxième, c'est Les Grandes Espérances de Charles Dickens, qui, est, enfin, qui nous parle de la modernité, hein, de l'ambition, voilà, les regrets. Ce sont des romans tellement immenses que je ne vais pas les résumer en deux secondes avec trois. Bon. Et le troisième, qui a été pour moi une révélation, et je ne l'aurais pas cité il y a 2-3 ans avant que je le lise, et quand je l'ai lu, j'ai compris pourquoi autant de mes collaboratrices l'avaient lu 150 fois, c'est Autant d'emporte le vent. Autant d'emporte le vent, c'est un roman gigantesque. C'est le roman de la fin d'une civilisation, c'est évidemment une histoire d'amour tumultueuse et impossible, c'est à la fois girly, romantique, etc. Et en même temps, enfin, c'est l'histoire d'une guerre civile atroce. Voilà, et c'est un roman qui est très différent de ce qu'on croit. Hein. Moi, je crois que c'était une célébration du sud des États-Unis. Et il n'y a pas un auteur qui a plus tapé sur le sud des États-Unis que Margaret Mitchell. Hein. Elle leur pardonne rien. Hein. Et Scarlett, c'est vraiment une cruchasse. Hein. Voilà. Et c'est un personnage extraordinaire. Donc, voilà, je cite ces trois-là et d'autres auteurs, éditeurs, enfin, n'importe qui, des amis à vous, vous en citerez d'autres. Mais là, avec des romans comme ça, vous. Alors, ils ne sont pas très faciles à lire. Alors, Emmanuel Nink m'a crié dessus hier parce qu'elle m'a dit: Ah non, tu ne peux pas dire ça. Honnêtement, si, Les Misérables, faut se le tarter. Les Grandes Espérances. Voilà, c'est évidemment, ce n'est pas notre rythme de lecture, ce n'est pas notre limite. Alors, regardez des belles adaptations, hein, sans scrupule. Regardez de belles adaptations au cinéma ou à la télé. Au moins, vous verrez l'histoire et vous verrez l'articulation de l'histoire et la façon dont chaque étape vraiment vous tape en plein cœur, vous met des coups de poing au ventre. Voilà, je ne peux pas vous conseiller mieux que ça.
Alors, admettons que dans la salle, il y ait des jeunes auteurs qui aient écrit un texte qu'ils souhaitent faire publier. Est-ce que vous les conseillez d'être relus et par qui ?
C'est une bonne question, parce que le truc de la bêta-lecture, c'est un phénomène assez récent. Alors, je suis très, très copain et je soutiens beaucoup le forum Cocyclix qui pratique la bêta-lecture, parce que j'en vois évidemment l'utilité. En même temps, la question, c'est oui. Soyez lu par quelqu'un qui vous conseille, qui vous donne son avis, mais choisissez le bien. C'est toujours pareil. C'est que vous, évidemment, votre maman va vous dire que c'est bien ce que vous faites. Hein. Et même si elle est éditrice ou critique littéraire et qu'elle sait très bien que non, mais votre maman. Hein. On ne peut pas ne pas encourager les gens qu'on aime en disant mais bon. Et y compris, j'en ai un petit peu honte, mais j'ai eu la chance de faire pour la 6e fois le speed dating vendredi soir, là, j'ai été beaucoup trop gentil. On est tous beaucoup trop gentils. On dit, moi, continuez, c'est pas mal, etc. Alors qu'en fait, la plupart des bouquins, on a le bénéfice du doute, on dit, bon, on va acheter un œil. Mais en fait, d'emblée, on se dit, celui-là, je le sens moyen, ou ça n'a pas l'air très clair, je ne sais pas trop. À mon avis, je sais pas où il va, ou c'est quand même un drôle de mélange des genres. Mais, voilà, mais on encourage, et voilà, c'est un exercice de bienveillance, on est là pour ça aussi, évidemment. Il ne faut pas faire l'inverse, il ne faut pas dire, faut pas décourager. Mais donc, voilà, la bêta-lecture, il faut savoir quoi en prendre, quoi en retenir, et il faut... Il y a un film que j'aime beaucoup, ça n'a aucun rapport, mais un film que j'aime beaucoup, dont évidemment le titre m'échappe, donc j'ai l'air d'un con, presque célèbre, Almost Famous. Et dedans, il y a un critique qui a existé, un grand critique rock américain, et qui disait il faut être impitoyable. Bon, voilà, faites-vous lire par des gens qui sont impitoyables, vous allez vous en prendre plein la gueule, mais c'est aussi un test. C'est parce que quand vous serez publié, vous vous en prendrez beaucoup plus plein la gueule. Hein. Et là, par des gens qui ne sont pas bienveillants et qui ne sont pas là pour vous aider. Parce qu'ils ont le droit, ils lisent un livre, ils en disent ce qu'ils veulent. Donc, c'est une épreuve, c'est une épreuve qui était très difficile, hein, évidemment, psychologiquement, humainement, émotionnellement, mais autant commencer plus tôt, le plus tôt possible que quelqu'un vous dise, écoute, je suis désolé, je t'aime beaucoup, bravo pour ton bouquin, mais ça marche pas du tout, le personnage est pas attachant, la fin c'est chiant, voilà, et c'est vraiment comme ça que vous progressez, en vous confrontant aux problèmes, aux faiblesses qui seraient apparues dans ce que vous écrivez.
Combien d'envois est-ce que vous conseilleriez à des jeunes auteurs pour des éditeurs ? Est-ce qu'il faut qu'ils balayent tout le champ de l'imaginaire ? Est-ce qu'il faut qu'ils essayent d'envoyer à un éditeur d'attendre la réponse ? Comment vous pensez que c'est le mieux, en fait ? Et en papier ou en numérique ?
Alors là-dessus, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'il faut envoyer un éditeur après l'autre et attendre la décision du premier avant d'envoyer au deuxième. C'est notamment le point de vue de Jean-Claude Duniac, auteur de science-fiction émérite et qui donne beaucoup de conseils aux jeunes auteurs. Donc allez l'embêter de ma part, ça lui apprendra. L'autre école qui dit d'abord les éditeurs ne répondent jamais assez vite, donc ça risque de vous prendre des plombes. Et deuxièmement, la mise en concurrence, c'est pas si mal. Et donc, je suis de la deuxième école, vous l'avez compris. C'est-à-dire, et pourtant, je ne devrais pas. Hein, je devrais dire, envoyez à Bragelonne, attendez ma réponse, et ensuite... Bon. Mais non, en fait, parce que vous allez perdre du temps, et parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on déclenche une lecture, qu'on se dit, ah, faut vraiment que je jette un œil à ce manuscrit? Bah, une bonne raison, c'est, voilà, la Talente est intéressée. Ah, bon, ah, ça doit être bien. Bon, bah, je vais jeter un œil, alors. Bon. Voilà, et alors, ne mentez pas, parce que ça se saura, hein. Voilà. J'appellerai Yann là-bas et je dirai c'est vrai, t'as pris ce bouquin. Bon. Mais c'est bien parce que c'est voilà, c'est intéressant. Donc c'est pour ça que je dis mise en concurrence ou tout simplement multiplicité d'intérêts qui fait qu'on se dit ben si j'ai un ou plusieurs confrères qui ont dit c'est intéressant, je reviens vers vous, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Donc moi je suggère de faire feu de tout bois. Par contre n'envoyez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout à n'importe qui, parce que d'abord vous allez ça va vous demander des efforts et éventuellement des sous pour rien, et ensuite parce que ça risque de nous gaver en fait, qu'on reçoit le 10e manuscrit qui n'a aucun rapport avec ce qu'on fait de la même personne, enfin c'est mon assistant Bruno Lambert qui, là on se dit bon en fait il sait pas ce qu'il fait ce garçon, ça l'intéresse pas en fait ce qu'on fait, il envoie et puis bon. Donc voilà, soyez. Mais sinon, allez-y en même temps. Et alors, tu me dis en numérique? Ah oui, alors nous, c'est du numérique. Hein. Ah, ça suffit le papier dans la cave qui vous coûte un bras en impression, en poste, etc. Donc, sur notre site internet, sur bragelonne.fr, il y a une page qui s'appelle Vous êtes auteur, avec un formulaire où vous dites c'est dans tel genre, voilà mes coordonnées, voilà machin. Et vous uploadez votre fichier, je ne sais pas si c'est Word ou PDF, enfin, vous uploadez votre fichier, hop, ça arrive dans une base de données. Qui est celle de mon assistant Bruno, qui jette un œil à tout, qui ensuite présélectionne, dispatche, et ensuite apporte ça à l'ensemble du comité éditorial en disant, ben voilà, à mon avis, ce qu'il y a à lire cette semaine. Donc, pas de papier. D'autres éditeurs vous diront l'inverse, mais tant pis pour eux, hein, s'ils veulent... voilà.
Quels sont les défauts que vous repérez les plus souvent chez un jeune auteur qui peuvent être rédhibitoires ou peuvent ne pas l'être en fait? À quelle tolérance vous avez en fait par rapport aux défauts que vous voyez dans un texte, et à quel moment vous dites oui ça va valoir le coup ou ça va pas valoir le coup?
Alors, tolérance, ça c'est une question difficile. Hein. Bon, je vais d'abord répondre aux défauts les plus. Ce qui est assez spectaculaire, c'est de voir à quel point en effet les défauts récurrents sont récurrents. C'est-à-dire, mais on pourrait avoir des listes, hein, et d'ailleurs quand on lit des débuts de manuscrits tous ensemble avec le comité éditorial, on pourrait quasiment les cocher. Hein. Donc, alors défaut ou cliché. Après, c'est peut avoir un chef-d'œuvre qui commence par un truc qu'on voit tout le temps, mais bon. Amusez-vous. Alors, je pense que dans les bouquins publiés, il y en a forcément moins. Mais le nombre de manuscrits qui commencent par un personnage qui ouvre les yeux, c'est ahurissant. Et je suis sûr que parmi vous, vous dites « Ah putain, le mien commence par un mec qui ouvre. » C'est ahurissant. Il se réveilla. Mais je trouve ça intéressant presque symboliquement ou même psychologiquement. Le livre s'éveille quand le personnage s'éveille. Enfin, il doit y avoir une... Mais... Non, les vrais défauts, je reviens à la... Enfin, je fais le lien avec ce que j'ai dit sur le romanesque, c'est les enjeux. C'est qu'il faut que l'histoire que vous écrivez, c'est l'histoire la plus importante qui soit jamais arrivée dans ce monde et à ce personnage. C'est que si un mec comme Tolkien, qui définit 4000 ans d'histoire, de mythologie et machin, etc., n'écrit que cette histoire-là, le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, c'est que c'est ça exemplifie tout le reste, c'est la plus forte, c'est la plus belle, c'est les personnages les plus vivants. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous efforciez. Il faut absolument éviter qu'on ait le sentiment que votre histoire est un peu accessoire ou un peu gratuite. Est-ce que c'est vraiment ça qui est important? Est-ce que c'est cette péripétie qui est importante? Si vous racontez une histoire de bande de mercenaires, C'est quoi l'histoire la plus importante? C'est le jour où ils ont aidé un type à se sortir de, je sais pas, d'un mariage arrangé ou d'une histoire conjugale où il était séquestré dans une cave, ou c'est l'histoire, c'est le jour où ils ont évité la guerre mondiale? Voilà. Aller au plus fort, aller au plus dur. Il faut que le personnage s'en prenne plein la gueule. Faites souffrir vos personnages. Orson Scott Card dit dans un bouquin que j'avais publié de lui, de conseil, comment écrire la science-fiction et la fantasy, il dit, quand vous devez choisir qui est votre personnage principal, prenez celui qui souffre le plus dans votre univers, ou qui est le plus faible, parce que c'est celui, un, qui a le plus de raisons d'agir pour changer les choses, et deuxièmement, c'est celui qui est le moins bien taillé pour cette aventure. Voilà, le héros du Seigneur des Anneaux, c'est un hobbit. Il n'en a rien à foutre, il est tout petit, il ne sait pas se battre, voilà. Donc c'est lui. Ce n'est pas Aragorn. Ce n'est pas le mec qui est taillé pour ça. Non, non, c'est celui. Voilà. C'est celui qui ne voulait pas y aller. Le personnage de Romanesque ne voulait pas y aller. Et ça ne commence pas en disant « Je suis un aventurier, je pars à l'aventure. » Non, non, c'est les gens qui ne voulaient pas. Ça leur tombe dessus. Et ils sont obligés de réagir. Je sais pas, Druss la légende, par exemple, chez Gemmell. Bah, ils ont, lui, c'est un pauvre bûcheron, et il est content comme ça, et des méchants kidnappent sa femme et l'emmènent. Bon, bah, il y va, hein. Il va aller sauver sa femme. Il n'a pas choisi, hein. Il aurait préféré rester chez lui. Voilà, ça c'est. Donc, et les enjeux, et j'ai y compris des grands auteurs, tout à fait établis, qui ont publié des 15 romans, je trouve que très souvent, il manque ce truc. C'est que le personnage est un peu trop dilettante, il se balade, on vient lui dire qu'est-ce que vous diriez de faire ça? Bien, pourquoi pas? Non, 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 il faut que dès le début, voilà. C'est l'une des raisons pour lesquelles le polar et les thrillers sont devenus les genres littéraires, les genres populaires, ceux qui ont le plus de succès. C'est que là, dès le début, il y a un truc qui va vraiment pas, quoi. Quelqu'un qui se fait égorger, c'est vraiment pas cool. Là, il faut vraiment faire quelque chose. Voilà. C'est trop tentant dans les genres de l'imaginaire, encore une fois, à univers, à décorum, que de dire « Ah, mais je vais montrer comment, quel aspect de l'univers, les gens ils font de la magie comme ça, etc. » Mais ça, c'est pas assez important. C'est pas assez important. Et j'ai dû lire des kilotonnes de bouquins comme ça quand j'étais jeune, j'étais avec le sourire, j'étais très content. Mais en fait, maximiser votre capacité d'entraîner le lecteur, de le choper, et de faire qu'il n'oublie pas votre livre, quoi. Et qu'il va jusqu'au bout, parce que ça, il y tient. À comment ce personnage va s'en sortir. Donc ça, c'est un défaut, c'est vraiment le plus gros défaut. Ensuite, ce qui est un peu lié à ça, c'est le côté encyclopédique. Un roman, c'est pas une encyclopédie. Un roman, ça consiste pas à décrire l'histoire du monde. Et voilà, au début, il y avait ça, et puis les populations étaient comme ça. Non, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Ça commence au début avec un type qui a un problème. Ça commence pas avec « mais d'abord je vais poser le monde ». Non, non, en cours de route, vous allez me dire comment c'est. Qu'est-ce que je pourrais... Et en fait, tu poses la question de la tolérance. Si vous réussissez ça, alors on se débrouillera avec le reste. C'est ça, vous voyez, c'est pas « ah, mon manuscrit pas tout à fait fini, il y a encore des fautes d'orthographe ». Je m'en fous complètement, on a des correcteurs pour les corriger. Alors s'il y a une faute d'orthographe à chaque mot, ça c'est désagréable à lire. Mais globalement, des coquilles, il y en a même dans les bouquins publiés, il y en a chez moi, enfin il y en a partout. Faut pas qu'il y en ait trop, mais ça c'est pas grave. C'est la force de votre histoire, c'est sa densité, c'est votre intention, c'est votre démarche, c'est votre sincérité. C'est voilà, j'ai vraiment une histoire en moi. Ah oui. Écrivez parce que vous en avez vraiment besoin, hein. Parce que sinon c'est pas la peine. C'est trop long, trop chiant, il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner, et ça nous gave, nous les éditeurs. Vraiment, écrivez parce que vous en avez vraiment besoin, parce que vous vous réveillez en pleine nuit avec votre histoire, en disant putain, voilà. Parce que la première chose que vous faites quand vous rentrez chez vous, ou le week-end, etc., c'est il faut que je continue mon histoire. Si ça vous brûle pas, laissez tomber, il y a beaucoup trop de bouquins inintéressants. Vraiment, il y en a beaucoup trop. Et il y a trop de bouquins intéressants pour une seule vie. Donc, écrivez ce dont vous avez vraiment besoin. Le reste, c'est des détails.
Quand vous êtes avec votre comité de lecture, alors, sur quelle quantité de texte est-ce que vous décidez? Une page, 20 pages? Au bout de combien de temps vous faites vraiment une idée sur le texte?
L'horrible vérité, quelques pages. Parce que ça se voit tout de suite, ça se sent tout de suite. Je reviens sur l'exemple du speed dating. C'est des rencontres de 10 minutes. C'est beaucoup trop long, 10 minutes. En une minute, on sait si on a envie de lire le truc. Et ça n'a pas de rapport avec les beaux yeux de la fille ou le type, il a un bon discours bien solide, il a bien rodé son pitch. Non, non, c'est, on le sent tout de suite. Voilà, c'est tellement intuitif, c'est tellement... et le pire, c'est que la suite ne nous fait quasiment jamais changer d'avis. Hein. Voilà, ça veut dire qu'il faut que vous soyez bon dès le début. Hein. Le plan, ah oui, mais au bout de 100 pages... Ça... Non, non, non. Mais non, vous êtes lecteur et lectrice. Enfin, la vie est trop courte pour s'enquiller 600 pages en attendant de voir si ça va être intéressant. Non, non, c'est pas bien. Dès le début, ça vous choque pas. Vous laissez tomber. Moi, dès le début, ça me choque. On est des lecteurs de première page. On est des lecteurs de... Quand je vous dis, là, le comité de lecture, le mercredi après-midi, Bruno, il nous donne des liasses de 10 pages. Hein. On lit 3-4 pages. On dit, ah, ça, ok, je veux bien lire la suite. Ou, non. Voilà.
Si on met de côté le texte proprement dit, quelles sont les qualités que vous attendez de rencontrer chez un aspirant auteur ? Des choses, vous dites, ça sera possible de travailler avec lui ou avec elle, ou ça ne sera pas possible, et du coup, ça rejaillit sur le texte aussi. Est-ce que ça arrive ?
Oui, c'est vrai. C'est une très bonne question, le relationnel. Voilà, on n'est pas... Enfin, c'est un dialogue, tout ça. Hein, c'est une relation qui peut être compliquée, qui peut être... qui peut surtout se compliquer avec le temps, c'est un cocktail explosif, hein, ce dont on parle. Il y a de l'art, il y a de l'argent, il y a un contrat, donc il y a de la loi, il y a de la séduction, de la persuasion, il y a beaucoup de travail, il y a de la promotion, voilà, personne ne parle de moi, vous ne faites rien pour moi. Et c'est comme ça depuis toujours. Hein. Moi, j'étais très frappé de lire des récits de carrière d'éditeur. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle Les Hommes de l'ombre, qui est un bouquin qui a un portrait, enfin les portraits des grands éditeurs du siècle. Et vous verrez que Marguerite Duras faisait exactement ça. Hein. Il n'y a pas eu de publicité pour mon précédent roman. Ciao, hein, je vais ailleurs. Ou Marguerite Yourcenar. On se dit, Marguerite Yourcenar était quand même au-delà de il est où mon marketing. Mais non. Mais c'est normal. Vous êtes auteur, vous voulez que votre livre se vende et vous voulez des lecteurs. Donc vous voulez que l'éditeur fasse tout ce qu'il peut pour ça. Bon. Donc c'est forcément une relation extrêmement délicate. Voilà. Et donc merveilleuse et fabuleuse, hein, mais et compliquée et dangereuse. Et donc ça joue, c'est-à-dire qu'on a envie de... Enfin, si on se dit, j'ai envie de publier le bouquin de cette personne... c'est un peu comme quelqu'un avec qui vous allez emménager, ou vous allez partir en vacances avec, ou quelque chose vous dit qu'on est parti pour un bon moment. Quoi. On sera ensemble pendant des journées entières sur des festivals, on va communiquer pendant des années, bref, tout ça. Alors, là aussi, c'est tellement subjectif, intuitif, je ne vais pas vous donner une liste de faites ci plutôt que ça. Mais je pense qu'il y a un aspect quand même important, c'est... Moi, maintenant, j'accueille un nouvel auteur dans notre catalogue, je fais, alors on est en train d'essayer de le formaliser, mais avant je le faisais d'une façon un peu informelle, c'est une sorte de brief. C'est les droits et les devoirs de l'auteur. Et les droits et les devoirs de l'éditeur. Mais des choses du genre, les chiffres de vente. Est-ce que tu as droit à des chiffres de vente? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as intérêt à les raconter à tout le monde? Voilà, c'est ton problème. Parce que les gens risquent d'être déçus. Alors tu vas te dire, ah, j'ai vendu 1000 exemplaires. Oui, bon. Il faut parler tout de suite. Tu as un problème, tu me le dis tout de suite. Tu n'aimes pas ta couverture, tu me le dis maintenant. Dans 3 mois, c'est trop tard. Le bouquin, il est imprimé, la couverture, elle est sur les étagères pendant 10 ans. Donc, soyez, le plus franc possible. Posez toutes les questions. Et si vous sentez que l'éditeur, il y a des questions, il n'a pas envie de répondre, ah, méfiez-vous. Vous avez, pourquoi on ne travaille jamais mieux que forcément en confiance et en appelant un chat un chat. Il y a des moments très délicats quand un auteur me dit bon alors comment ça marche mon bouquin et qu'on s'est complètement vautré. Bon, c'est chaud, mais voilà, ça fait partie du truc. Bon, l'aspect dans la relation dans le livre en train de se faire, ça c'est absolument fondamental, c'est qu'il faut être ouvert aux critiques. Parce que d'abord, si vous allez chez un éditeur, c'est parce que vous croyez qu'il a de l'expérience et du savoir-faire, et que c'est pas juste une imprimante. Donc, si vous pensez qu'il a de l'expérience et du savoir-faire, et que donc ses choix et son regard ont de l'intérêt, ont une valeur, profitez-en. Et s'il vous dit la fin de ton bouquin, elle fonctionne pas, tenez-en compte. Et vous avez le droit de pas être d'accord, ou ça va peut-être être compliqué. Moi, vraiment, sur quasiment tous les bouquins que je publie, y compris avec des gens que je publie depuis plus de 10 ans, on s'engueule toujours sur chaque bouquin. Il y a toujours un moment où on va me dire mais de toute façon, il n'y a que moi qui crois à ce livre. Ok. Ou je ne suis pas assez payé pour écrire un bouquin qui m'emmerde. Ok. Ce à quoi j'ai répondu, tu ne vends pas assez pour que je publie un bouquin que je n'aime pas. Ok, à demain. Un café bon. Voilà, et donc ça arrive, toutes les relations. Mais et donc ça veut dire qu'il faut se préparer à vivre ce dialogue, ne pas être dans l'antagonisme, et ayez à l'esprit que l'éditeur, en un sens, il a encore plus besoin que vous que le bouquin soit bon et qu'il marche, parce que c'est ses sous à lui. C'est moi qui l'ai payé, le livre. C'est notre société qui l'a payé. Bon. Ça ne veut pas dire que vous n'apportez rien, évidemment, et que vous êtes pas, il n'y a pas un péril, des attentes, etc. de votre côté, évidemment, auteur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, un bouquin qui marche pas très bien, moi je m'en fous pas, hein, je m'en fous pas du tout. Je dis pas, oh, bon, ça arrive. Non, non, c'est grave, c'est grave humainement, c'est grave financièrement, etc. Donc soyez ouverts à voilà à la critique, au fait de travailler ensemble, à retravailler votre bouquin. Là, je viens de passer une heure avec une auteure que à qui j'ai proposé un contrat après un speed dating, ici, il y a 4 ans. Et on travaille toujours sur le livre. Il y a des moments où elle m'a dit, j'en ai vraiment marre. Hein, et je ne suis pas sûr que je doive aller jusqu'au bout de ce livre. Et je dis, bah, voilà. Mais le jeu en vaut la chandelle. Donc ça. Et oui, et ça peut être un travail de très longue haleine. Hein. Je veux dire, ce qui est très frappant, moi, ce qui me frappe beaucoup dans les grandes révélations de la fantasy ces dernières années, notamment à mon catalogue, les Rosfuss, les Wicks, les Brett, etc., c'est des gens qui disent, moi, j'ai travaillé 14 ans sur mon livre. Hein. Le nom du vent de Patrick Rosfuss, c'est 14 ans. Hein. Donc, elle a le droit d'être bon, hein, le bouquin. Je veux dire, par là, si au bout d'un an, il s'était dit, oh, bah, ras-le-bol, je vais être publié chez machin parce que j'ai pas le temps d'attendre, quel dommage. Ah oui, donnez-vous du temps. Tant de fois, j'ai vu sortir un bouquin dont j'avais lu le manuscrit, que j'avais refusé, et je vois qu'il sort 2 mois après chez un autre. Je dis, mais non, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Et tous les éditeurs autour vont dire, oh, quel dommage, quel gâchis, il n'était pas prêt. Respirez. Attendez un peu, faites autre chose, relisez-le un mois plus tard. Voilà, donnez-vous le temps, ne soyez pas trop pressé. Voilà.
Est-ce qu'un jeune auteur peut venir vous voir et vous dire, voilà, j'ai quelque chose à vous proposer ?
Ah bah oui, je tweet tous les ans que... Oui, oui. Mais alors, l'exercice du pitch, hein, c'est ça le truc. Ça, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, évidemment, c'est difficile. Ce qui est aussi difficile, c'est pas parce que vous êtes un bon écrivain que vous êtes un bon pitcher. Donc le meilleur écrivain du monde, il peut voilà, dire un truc incohérent, perdre ses moyens, voilà, et se dire après, mais putain, pourquoi j'ai dit ça et pourquoi j'ai pas dit ça. Bon. Et pourtant, le livre est bien. Mais donc, comme toujours, comme dans les lettres d'accompagnement des manuscrits, allez au plus simple. Je m'appelle machin, j'ai décidé de faire un roman de, je crois, fantasy, mais si ça se trouve, vous savez pas trop quel genre c'est pas grave. J'espère que ça vous plaira. Bonne journée. Et le pitch, c'est, ben voilà, ça raconte ça. C'est tout. C'est l'histoire d'un... ça se passe en 1633, Richelieu a son équipe de bretteurs, de mercenaires, d'espions, qui s'appellent les Lames du Cardinal. Ils ont été... Ils reviennent aux affaires, il a besoin d'eux à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il y a une menace. Il y a des dragons qui menacent le royaume de France. Les Lames du Cardinal, Pierre Feuel. Point. Et là, arrêtez-vous. C'est pour ça que je dis que les 10 minutes du speed dating, c'est trop long. Parce que je fais, ah, c'est pas, moi ça a l'air sympa, mais j'aimerais bien le lire. Oui, parce qu'en fait, ce qui va se passer... Ah non, 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 laissez-moi le lire, laissez-moi le découvrir. Vous voyez ? Il n'y a rien de pire que les gens qui vous racontent tout le film. Et pourquoi vous faites ça ? Enfin, un vous théorique, c'est parce que vous voulez continuer à... Voilà, parce que les thèmes qui m'intéressent... Mais j'ai compris quel thème. Voilà, n'en rajoutez pas. Dites, voilà, j'ai envie de faire ça. Et par contre, s'il y a des questions... Quelles sont les œuvres qui vous ont inspiré, tiens, ça c'est bizarre comme détail, pourquoi ça ? Ou j'aurais pu dire à Pierre ce que j'ai fait, vraiment le contexte historique, tu veux pas un royaume imaginaire, parce que bon, il y a des gens, Richelieu, ils s'en foutent. Ou je sais pas, quand on sort de l'école, on n'a pas très envie de lire un truc sur Richelieu. Par contre, on veut lire un truc sur la Terre du Milieu. Bon. Voilà, on vous posera des questions, mais n'en rajoutez pas. Et en effet, pitcher.
Peut-être que ce n'est pas très clair pour nos aspirants auteurs. Quelles sont les étapes, en fait, à partir du moment où vous appréciez le texte, les étapes qui vont jusqu'à vraiment la publication du texte et voilà. Et si on peut considérer déjà que la publication du texte est une fin, on va dire, en soi.
Les étapes, c'est assez simple. C'est d'abord, si on s'intéresse à un manuscrit, déjà, on va le lire et on va le travailler. Et éventuellement, on va modifier. Il n'y a quand même pas beaucoup d'exemples dans mes 20 ans de carrière où Je n'ai pas touché un bouquin. J'en ai un. C'est Le Secret de J de Pierre Grimbert. Nickel. De la première à la dernière ligne. Rien changé. Je crois que je vais poser une question sur une phrase. Je dis, ah là, mais là, il mange quoi? Vraiment, le truc, histoire de dire quelque chose, quoi. Histoire de dire, attends, bon. Mais sinon, il y a toujours du travail, au moins des suggestions, au moins, ou peut-être que vous-même, vous avez hésité entre plusieurs options dans votre ouvrage. Donc, c'est bien de se poser ces questions et de voir où on va. Ensuite, le bouquin, il est éventuellement, il passe par ce qu'on appelle une prépa, une préparation qui est en fait une réécriture. Des suggestions de reformulation, de syntaxe, de là c'est pas très clair, là on pourrait mettre la phrase dans l'autre sens, voilà. Une correction orthographique, typographique. Et en principe, à ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire. C'est-à-dire, pour vous, c'est bon, vous avez dit d'accord, je suis content. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va mettre en page. Ah oui, on va faire une couverture. Donc là, on va vous interroger en disant, on a deux, trois idées. Est-ce que toi, tu as des idées? On aimerait bien faire ça. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça ne te plaît pas? Là, un petit bémol quand même, c'est que c'est notre métier. Donc là aussi, c'est comme tout à l'heure, je vous disais, faites confiance à l'éditeur. Ou alors, si vous pensez que cet éditeur fait des coups de merde, il ne fallait pas lui proposer le bouquin. Quoi. Bon. Et donc, en gros, dans le contrat traditionnel, l'éditeur est seul décideur pour le prix de vente, la date de publication, la couverture. En pratique, on se parle. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous détestez votre couverture, dites-le. À l'éditeur de vous convaincre que non, elle est vraiment bien et je vais t'expliquer pourquoi. Bon. Et puis, pareil pour le quatrième de couverture, c'est à nous de faire, mais qu'on pourra vous proposer. Vous soumettre, parce qu'il faut que ça vous plaise, vous compreniez pourquoi on a décidé de faire ça et pourquoi c'est bien. Un contrat, évidemment, ah oui, j'ai un peu oublié. Lapsus. Contrat d'édition, bien sûr, je vous dis, votre bouquin est bien et j'aimerais bien le publier, voilà mon offre. Voilà, je vous propose. Et alors, les éditeurs intelligents et sensibles, comme moi, et qui veulent éviter les emmerdements, vous expliquent le contrat. Parce qu'il y a très peu d'agents d'auteurs en France, donc c'est pourtant le boulot, ou éventuellement votre avocat ou un juriste, mais lire le contrat et dire, là je comprends pas, là est-ce que je me fais avoir, là quelles sont les conséquences possibles, etc. Parce qu'il vaut mieux être d'accord et avoir le moins de zones d'ombre possible dès le début. Voilà, et ça se discute, hein. Un contrat ça se discute. Alors discutez-le de façon informée. Dire, ah bah, on me propose 3000 euros. Je sais très bien que la moyenne en France, c'est 15 000. Non, pas sur cette planète, non. Voilà, donc, mais vous pouvez très bien dire, demander aux autres auteurs, toi, on te propose combien, c'est quoi tes pourcentages, s'ils veulent bien vous le dire, vous pouvez dire, je trouve que vous charriez un peu. Moi, régulièrement, j'entends par la bande des conditions venant d'autres éditeurs où je dis, moi, je trouve qu'ils charrient. Voilà, là, ils charrient. Et on peut donner plus que ça quand même. Et si ça se trouve, il y a des gens qui trouvent que moi, je charrie. Hein. Mais voilà, il y a cette étape-là qui est importante. Ouais. Et puis après, il y a le service après-vente. Voilà, l'ouvrage est publié et là, on va vous mettre à contribution. Ce qui est aussi, c'est un peu comme le pitch. Hein. C'est pas, vous n'êtes pas né avec. Hein. Vous pouvez être un écrivain très mauvais pour la promotion, mais les lecteurs, ils ont envie de rencontrer les auteurs. Ils ont envie de les entendre parler dans un micro. Ils ont envie de lire des interviews. Et de les rencontrer en dédicace. Et donc, c'est ça, le service après-vente, c'est être face au public. Et c'est pas facile. Il y a des auteurs qui ont vraiment du mal avec ça. Ils ont envie de rester dans leur coin, ils n'ont pas envie de parler. Même un lecteur qui dit « j'ai adoré votre livre », ça les met mal à l'aise. Donc, ça peut être difficile. Mais ça fait partie du boulot. Aujourd'hui, ça fait partie du boulot. Ouais.
Alors, je vais vous laisser la parole pour les questions que vous avez. Je voulais juste finir en disant que les personnes qui n'auront pas le temps cette année d'offrir une bière à Stéphane Marsan pour lui parler de leur texte, je rappelle que le Festival des Imaginales organise tous les ans le speed dating le vendredi avec des éditeurs de différentes maisons d'édition et qu'en 10 minutes, effectivement, vous pouvez présenter votre projet et le défendre auprès d'un éditeur. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions pour Stéphane?
Excuse-moi, j'ai une toute petite précision là-dessus. J'avais envie de dire, il n'y a pas qu'aux Imaginales qu'on peut pitcher et speed dater. D'autres festivals, d'autres occasions, y compris vous passez à Paris, on peut prendre un café. Sauf que le plan « Bonjour, je voudrais vous présenter mon livre », à chaque fois je réponds « Non, envoyez-moi le manuscrit, parce que ce n'est pas un entretien d'embauche ». Donc il faut distinguer, et puis non, je n'ai pas le temps de vous accorder un rendez-vous d'une demi-heure au bureau pour que vous me disiez « Je fais ça voilà. ». Il faut distinguer vraiment le pitch très court, voilà, mon histoire c'est ça, est-ce que vous avez envie de le lire, et je vais essayer de vous convaincre pendant une demi-heure que mon livre est formidable, alors que j'en ai pas lu une ligne, donc en fait, j'en ai aucune idée. Voilà. Donc évitez le côté, je voudrais vraiment vous rencontrer pour vous parler de mon livre. Non, ça ne sert à rien.
Question. On avait prévu ça, oui.
Est-ce que le fait d'être bénévole dans des comités de lecture, tout ça peut permettre à améliorer sa propre écriture, ses propres histoires ou ses...
C'est pas une mauvaise idée. Vous avez tous entendu, être bénévole dans un comité de lecture, est-ce que ça peut permettre d'améliorer son écriture, etc. Ben oui, parce qu'on est confronté. C'est intéressant de lire les défauts des autres aussi. C'est intéressant. C'est évidemment plus facile de voir les défauts des autres que les siens. Oui, sauf que être dans un comité de lecture, c'est ça demande des compétences. Donc tout le monde ne peut pas y être. Quelles compétences ? Avoir des références. Dire les gens qui aiment ce genre de bouquin, les gens qui aiment Le Seigneur des Anneaux aimeront ce livre, ceux qui aiment ça ne l'aimeront pas. Ça c'est encore une fois Bruno, mon assistant, qui fait ça, il a des directives, il dit j'ai besoin de ça et ça. Être capable de résumer un bouquin sans en faire 10 pages, mais aller à l'essentiel, dégager les qualités, les défauts, et tenir compte là aussi de ce que fait l'éditeur. Et donc, parce que la fiche de lecture, elle est faite pour l'éditeur, pour dire, vous, chez Bragelonne, vous devriez faire ce livre ou vous ne devriez pas. Ce qui n'est pas nécessairement le cas chez Malpertuis, chez d'autres, chez Pocket, vous voyez, parce qu'on n'a pas les mêmes goûts, on ne cherche pas les mêmes trucs. Donc, savoir où vous êtes et pour qui vous le faites. Mais n'hésitez pas à proposer, on en cherche toujours, des lecteurs qui font des bonnes fiches de lecture. Ah oui, si vous lisez des langues étrangères, c'est pratique aussi, et pas seulement l'anglais. Parce que les gens qui lisent le français, on en a beaucoup. Mais les gens qui lisent l'anglais moins, les gens qui lisent l'espagnol, le polonais, le russe, etc., très peu. Donc ça, c'est très très utile, n'hésitez pas à le faire. Ouais.
Oui.
Comment est-ce qu'on fait pour protéger son manuscrit avant de l'envoyer ?
Vous l'envoyez en recommandé à vous-même et vous n'ouvrez pas l'enveloppe. Vous pouvez aussi le déposer chez un avocat ou un homme de loi, vous pouvez l'envoyer à la SGDL, mais honnêtement, tout ça est un peu compliqué. Je pense l'avocat, ça me paraît le plus, ou l'homme de loi, il le met dans son coffre et le jour où il y a un problème, il peut le ressortir. Ceci dit, les cas avérés de plagiat sont rarissimes. Et en général, ils sont chez Disney et bonne chance. Donc, voilà, ne soyez pas trop parano là-dessus. Mais si vous voulez le faire, faites ça. Excellente question. Ça dépend vraiment de où vous en êtes. Est-ce que vous en avez vraiment, vous avez encore la ténacité de vous y accrocher ou pas. Il peut y avoir un moment. Carte dit ça dans son bouquin. Il dit il y a des bouquins qui sont pas destinés. Souvent les premiers romans sont pas destinés à être publiés. C'est une sorte de brouillon de votre carrière. Vous avez beaucoup travaillé, vous y avez mis beaucoup de vous, etc. Mais en fait, ça va rester là. Et après, le suivant, il est débarrassé de scories, vous n'essayez pas de faire le chef-d'œuvre de la décennie, ça raconte pas toute votre vie, il y a quelque chose de plus simple, de plus efficace, de moins lourd psychologiquement et stylistiquement. Mais en même temps, si vous tenez à votre bouquin, vous ne laissez pas faire par un refus. Ah oui, là, évidemment, Dune est refusé par 60 éditeurs. Les Dames du Lac est refusé par 21 éditeurs en France. Légende de David Gemmell a été refusée par tout le monde pendant 20 ans, merci, parce que du coup j'ai pu le pécho. Donc là aussi, si vous y tenez à votre truc, vous avouez pas vaincu parce qu'un mec a dit je le sens pas. Non, réessayez, allez voir les autres, essayez de comprendre pourquoi tout le monde le refuse et tout le monde le refuse. Mais changez de crèmerie, défendez votre truc. Ouais.
Oui, il y avait Manu.
Ah, on a combien de temps?
J'ai hésité, on a posé.
Ah, c'est difficile parce que je vais chaque année à la conférence nationale de romance aux États-Unis, RWA, où l'auto-édition est devenue extrêmement forte et j'y joue le rôle du. Voilà, vraiment du vieux monde. Hein. Ah, ok, l'européen, le français va nous expliquer qu'il ne faut pas s'auto-éditer parce que Amazon, tout ça. L'auto-édition, elle est essentiellement. Oh là 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 là, c'est très...
Bon. Une question de conférence
différence. Ouais, c'est pas, ça, bon, ça permet d'avoir des lecteurs, ça permet d'avoir des retours et éventuellement de très bonnes surprises, parce que vous vous rendez compte que même si les éditeurs, pour telle ou telle raison, n'ont pas voulu de votre bouquin, ben, y a plein de lecteurs qui l'ont trouvé vachement bien. Sauf qu'en général, les succès en auto-édition, c'est quand même des bouquins à 99 centimes. Voilà, c'est deux fois moins cher qu'un café au bistrot. Donc on peut se dire que les gens qui ont acheté votre livre, ils n'ont pas eu un engagement. Pour eux, ce n'était pas un gros investissement. Mais ils peuvent avoir. Et aussi, le lecteur d'ouvrages auto-édités est tellement plus magnanime. Parce que même s'il a juste trouvé ça sympa, il va vous écrire en disant oh, c'était très sympa. Et vous vous dites waouh. Bon, c'est bien, ça fait du bien. Mais s'il avait mis 20 euros dans votre bouquin, il aurait peut-être eu une autre réaction. Il aurait dit eh, bon. C'est pas vrai en France, mais c'est vrai aux États-Unis. Combien d'appelés, combien d'élus. C'est-à-dire que pour deux personnes qui ont vendu 1 million de bouquins, Amanda Hawking, il y a des millions de gens qui vendent 0,00. Donc c'est pas un Eldorado. Mais ça existe, autant s'en servir. Voilà. Et puis il y a des cas. Ah oui, et puis l'auto-édition, c'est aussi la nouvelle pile de manuscrits des éditeurs. C'est que j'ai des éditrices qui lisent ce qui est tout publié et de temps en temps vont dire ah, c'est pas mal. Je sais pas, Anthony Ryan, il est auto-publié. Yeowi, il était auto-publié. Enfin, il y a plein de formidables auteurs qui sont auto-publiés. Ils ont bien fait parce que sinon, on n'aurait pas vu leur bouquin. Voilà, c'est un peu une réponse de Normand, mais voilà. Oui. C'est à qui s'adresser? À Anne Besson. Elle vous dira si c'est de la fantaisie. Je sais pas, au libraire. Parce que pourquoi j'hésite pour répondre à ça? C'est parce qu'il y a quand même des zones de flou. Il y a des romans. Voilà, est-ce que c'est de la fantaisie? Est-ce que c'est machin, etc. Le libraire, les bibliothécaires. En fait, les gens qui les catégorisent, les gens qui les, voyez. Et les éditeurs qui peuvent avoir des raisons. Comment dire, je dirais pas malhonnête, mais un peu fourbe de classifier. C'est-à-dire que la fantasy, ça marche mieux que la science-fiction. Donc on a plutôt envie de mettre un bouquin en fantasy qu'en science-fiction. Enfin, ouais, je caricature un peu, mais à peine. Hein, j'ai des exemples en tête. Des séries qui sont passées d'une catégorie à l'autre, elles n'avaient pas changé et elles n'avaient pas changé de genre. Donc le genre et la catégorie marketing, c'est pas la même chose. Et du coup, alors là, je vais répondre d'une façon un peu moi aussi fourbe. C'est est-ce que ce qui vous importe, c'est quel genre j'écris, ou ce qui vous importe, c'est dans quelle catégorie les gens vont le considérer et dans quelle catégorie il marcherait le mieux. Encore pire, si je puis dire comme exemple, le Young Adult. Le Young Adult qui est vraiment une invention marketing pour fourguer des bouquins à une tranche d'âge qui, en général, ne lit pas beaucoup. Bon. Mais c'est aussi l'incitation à traiter des sujets qui s'adressent particulièrement ou sous une forme qui s'adresse particulièrement à ce lectorat-là et qui saura les trouver là. Si mon bouquin, c'est sur la trouille de la première expérience sexuelle, ah ben oui, évidemment, c'est pour le young adult. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Voilà, le... promenez-vous, demandez... Il voilà, n'y a pas d'autorité là-dessus, véritablement. Voilà.
Une dernière question.
Je suppose, oui, c'est ça, ils ont le temps de faire ça. Peut-être que certains le font. Moi, ça me pose aucun problème. Pourquoi? Parce que déjà, enfin, si le seul problème que ça pourrait poser, c'est quelle proportion de nos ventes potentielles ont déjà été couvertes par l'auto-édition et que donc on n'aurait pas vu les ventes moyennes de l'auto-édition. Bon. Et l'inverse est vrai aussi, c'est que si le mec, il a vendu 10 000 exemplaires en auto-édité, des gens comme Forrest, par exemple, ou Jeff Balek, on se dit, ah ouais, pas mal. Donc, en fait, le bouquin a de l'intérêt. Donc, on a d'autant plus de raisons de le faire. Pour moi, c'est pas un problème du tout, du tout, du tout.
Voilà, donc on va vous remercier et vous souhaiter bonne chance à tous.
Merci.